Bien, écoutez, commençons donc. Sixième épisode dans une saga qui pourrait en avoir beaucoup plus. Ces leçons seront publiées pour une large part dans un ouvrage qui paraîtra à la rentrée et qui s'intitulera « L'architecture du XXe siècle en France, modernité et continuité », donc reprise sous une forme bien sûr plus écrite et illustrée. Aujourd'hui, je voulais donc évoquer les développements troubles et troublés, et parfois troublants, qui interviennent entre 1965 et 1981, deux dates qui sont significatives pour des raisons hétérogènes. 65, eh bien, c'est la mort de Le Corbusier, qui est un événement important, symboliquement très important pour plusieurs générations. Et 81, c'est un changement politique comparable à celui qui intervient à la fin des années 60 et dont je vais parler aujourd'hui. La mort de Le Corbusier est suivie par une cérémonie le 1er septembre 65 dans la cour carrée du Louvre, lors de laquelle André Malraux, dans une de ses oraisons funèbres célèbres, déclare, je cite, « Aucun n'a signifié avec une telle force la révolution de l'architecture parce qu'aucun n'a été si longtemps si patiemment insulté. » Donc la grandeur de Le Corbusier est mesurée par l'intensité des injures, des insultes. Et cette démonstration, en quelque sorte par l'absurde, marque, pourrait-on dire, la récupération par l'État d'un architecte qui n'aura pratiquement pas bénéficié de ses commandes au moment où certaines de ses idées falsifiées et dégradées, à tel point qu'elles discréditaient largement Le Corbusier aux yeux de ma génération, était en train d'imprégner la production de masse française. Une production qui est très intense et intéressante dans les années 50-60, peu historicisée, peu discutée, interprétée à l'époque. Une exception est le très beau livre de Maurice Besset, « Nouvelle architecture française », qui est sans doute que l'on trouve encore en occasion et qui est un livre très, à mon avis très intéressant de la part de quelqu'un, Maurice Besset, qui était actif autour d'André Malraux et qui d'ailleurs sera l'exécuteur testamentaire de Le Corbusier. Et une démonstration intéressante, une réflexion intéressante et qu'il est possible de faire, c'est de se demander pourquoi dans la collection de Brasiler publiée à New York, New Directions, où Gregotti publie un livre sur la nouvelle architecture italienne, il n'y a pas de livre sur la nouvelle architecture en France. Très intéressant. J'ai posé la question à Victoria Newhouse, qui était à l'époque la compagne de George Brasiler et qui lui a répondu qu'il n'avait pas trouvé d'auteur. Donc il y avait une architecture active, intense, et apparemment pas d'auteur. Dans cette période, dans ce cycle, ce qui s'impose à nouveau en toute netteté, de manière différente du cycle précédent, du cycle du lancement des grands ensembles, c'est l'intervention multiforme des appareils d'État dans la production architecturale que l'on ressent à la fois dans l'urbanisme, dans le logement, dans l'éducation et dans les politiques culturelles. C'est une politique importante également, tout d'abord en termes d'urbanisme. C'est en 67 que la loi sur l'urbanisme de Vichy, la loi de 43, est remplacée par la loi de 67 qui dit ceci, l'agglomération, la très grande ville et les communes où des schémas d'aménagement, des plans d'occupation des sols plus fins sont utilisés. Dans ce cadre, des opérations engagées auparavant commencent à être modifiées pour laisser la place au capital privé et des rénovations de très grande ampleur sont lancées. J'ai à l'esprit la rénovation du quartier Italie qui est engagée dans ces années. La maquette est faisant apparaître cette grande autoroute qui serait entrée dans Paris pour adapter, comme l'entendait Georges Pompidou, Paris à l'âge de l'automobile et une image de ce quartier aujourd'hui. Grande opération qui est lancée par, essentiellement coordonnée par Ollet, qui était l'héritier spirituel de Raymond Lopez, dont j'ai déjà parlé. Grande opération aussi que celle des Halles, rendue immortelle par cette double page de Paris Match dans laquelle les architectes, certains des chefs d'équipe apparaissent comme des chefs présentant des gâteaux lors d'un concours de pâtisserie. Ce projet des Halles, cette opération des Halles est une opération extrêmement intéressante. Les projets tendent dans l'ensemble d'une assez grande médiocrité. Il est intéressant qu'a priori, aucune voix significative ne s'élève contre la destruction des Halles de Baltard. Il faudra attendre que les Halles de Baltard soient en quelque sorte sanctifiées par les manifestations qui s'y tiendront au tout début des années 70, juste ou 69-70, pour que l'idée d'une préservation de ces parapluies métalliques devienne possible, soit envisageable. L'État intervient de façon massive dans des programmes nouveaux, lançant des politiques d'aménagement des côtes méditerranéennes et atlantiques au travers de missions interministérielles d'aménagement qui conduisent au départ de chantiers extrêmement importants et parfois très monumentaux. C'est dans cette période que le chantier de la Grande Motte, que l'opération de la Grande Motte, la date de 1960 est sans doute fausse, c'est à cette époque que l'opération de la Grande Motte est lancée et réalisée par Jean Balladur, avec ses bâtiments pyramidaux et un jeu sculptural un peu enfantin qui lui vaudra d'être exclu du comité de rédaction de l'architecture d'aujourd'hui, qui était quand même une instance assez pluraliste, voire assez molle. Exclure Balladur montre combien ces bâtiments avaient choqué certains représentants d'un moderne plus rigoureux. D'autres projets sont entrepris. Je pense au projet d'une autre partie de la côte Languedoc-Roussillon, entrepris par Georges Candilis, qui vient de se séparer, qui se sépare dans cette période de ses associés Josic et Woods, et dans lesquels Casbah méditerranéenne, dans lesquels réapparaissent les thèmes que Candilis avait explorés au Maroc au début des années 50. Ces opérations fabriquent dans l'ensemble finalement ce que Rogers, dont j'ai déjà beaucoup parlé, ce qu'Ernesto Rogers appelait de ses voeux quand il constatait que l'architecture française avait, je le cite, du mal à trouver des expressions assez marquantes sous le rapport de la figuration. Il y a beaucoup de figuration ici, et une figuration qui tranche avec les images nostalgiques qui sont celles du Port Grimaud, construit à la même période par François Spoerry. Il y a donc une série d'opérations, et je crois qu'elles sont toutes révélatrices parce qu'elles vont être en partie à l'origine du travail sur l'habitation urbaine pour tous, ces ensembles d'habitations de vacances. J'évoquerai aussi les opérations dans les montagnes, celles modernes, dans un ordre sublime, comme la station de Flaine de Marcel Breuer, mais celles pittoresques aussi, extrêmement intéressantes à mon avis, un peu oubliées aujourd'hui, d'Avoria, dessinées par Labro et Orzoni essentiellement, et jeunes architectes qui connaissent beaucoup les États-Unis et qui donc réinvestissent une réflexion sur les paysages de l'Ouest américain dans leurs projets. L'État intervient également dans le champ de la politique culturelle et réalise directement des maisons de la culture. C'est en 1965, il faut le dire aussi, au moment même de la mort de Le Corbusier, que l'État crée un bureau de la création architecturale, c'est-à-dire dissocie l'intervention sur l'architecture contemporaine de la tutelle sur les grandes opérations d'aménagement. Et en l'occurrence, ce travail sur la création a été largement préfiguré par le programme des maisons de la culture de Malraux. Le quatrième plan français prévoyait d'en lancer 20 entre 62 et 65. Malraux laissera 7 maisons de la culture non tout à fait appréciables en quittant son ministère en 69 et 14 seront achevées en 76. La première, je l'ai montré déjà, c'est celle du Havre, de Lagneau et de son équipe, une des plus importantes, plus intéressantes par ses volumes extérieurs, mais aussi par ses dispositifs scéniques, par sa scène mobile notamment, et celle de Grenoble que dessine Wojcinski avec le scénographe Jacques Polieri. Cette ouverture du bureau de la création architecturale, dont j'ai parlé en 65, manifeste vraiment une préoccupation étatique de l'invention architecturale. et qu'on retrouve par exemple dans l'un des projets collectifs les plus importants de la Ve République naissante, qui est le cinquième plan. Claudius Petit y anime un groupe consacré à l'architecture au sein de la commission de l'équipement culturel. Et cette intervention se manifeste dans toute une série de domaines par la création de musées ou de centres dramatiques. Face à cette pression étatique, à cette demande, les formes de l'exercice professionnel sont mises en cause. C'est au début des années 60 que l'on voit apparaître des agences organisées sur le modèle des grandes équipes américaines, des grands bureaux américains, en particulier celle de Dufault. Je montre ici ce projet de Dufault qui est très chargé idéologiquement, puisque les hôtels Hilton, construits de manière privilégiée par Hilton dans les pays où la gauche communiste est forte, ont une volonté démonstrative. Les premiers sont construits à Athènes, où il y a un enjeu avec la gauche grecque, bien qu'elle ait été battue, il y en a à Rome, bref, c'est une volonté démonstrative. Et Dufault, face à ça, met en service une agence constituée sur le modèle américain qu'il a découvert en voyageant aux États-Unis dans les années 50. Mais il y a aussi une autre Amérique qui apparaît, et ainsi d'ailleurs qu'une autre Grande-Bretagne, c'est celle que présente la revue Aujourd'hui Art et Architecture, qui avait été créée par André Bloch dans les années 50, publiée en parallèle à l'architecture d'aujourd'hui, pour être une sorte de plateforme au service du programme de la synthèse des arts. Aujourd'hui, c'est une revue intéressante parce que c'est en lisant notamment les textes de Claude Parent et de Patrice Goulet que l'on découvre les sources de certains des conflits qui traversent encore l'architecture française aujourd'hui. Ainsi, lorsqu'elle publie un numéro sur l'Italie, elle dénonce, un intellectualisme de mauvaise aloi. C'est la suite de la polémique avec Casabella qui accusait l'architecture d'aujourd'hui d'être en état de mort cérébrale, si l'on peut dire. Quant à l'image de gauche, qui a été très importante à l'époque avec le reportage qui l'accompagnait sur le Sea Ranch de Charles Moore, accompagné d'images de l'architecture de Louis Kahn, Patrice Goulet et Claude Parent disaient que cette architecture révélait, je cite, un certain décalage par rapport à l'image super modernisée par laquelle on représente habituellement les États-Unis. Deux points. Fusée, ordinateur, autoroute, gadget, gratte-ciel. C'est vrai que c'est une autre Amérique, une sorte d'Amérique alternative, comme dirait Caroline Maniac, qui, dans son très beau travail sur cette autre Amérique et son absorption critique par la France, ce sont ces images qui commencent à circuler, ainsi que celles du travail de Sterling, dont les œuvres, à en croire Goulet et Parent, je cite, « jettent le trouble dans les consciences ». Étrange propos. Après deux décennies marquées par l'hégémonie du béton armé, le répertoire des matériaux et le répertoire des technologies disponibles semble aussi s'ouvrir, ainsi que celui des morphologies. C'est avant 68 qu'apparaissent des projets comme le projet de Bardet, de Jacques Bardet, pas Gaston, à la Nera, qui est un projet d'habitation en nappe qui sera réalisé extrêmement lentement, mais qui finira par l'être et qui a un rapport assez étroit avec le projet de diplôme de Moshe Safdie, construit sous la forme de l'Habitat 67 à Montréal. Il y a aussi, du côté de la construction métallique, quelques réalisations qui marquent une sorte d'apogée de cette stratégie. Lotz, après avoir essayé depuis une vingtaine d'années, arrive enfin à fabriquer des immeubles complètement industrialisés en métal, notamment à la Grande Mare, à côté de Rouen, et réalise également la Maison des sciences de l'homme à Paris, actuellement en cours de réhabilitation. Donc il y a une sorte d'élargissement du spectre des technologies, par exemple avec le début d'un discours sur l'industrialisation dite ouverte, c'est-à-dire sur des méthodes de construction qui permettent de créer des bâtiments différents avec des composants en nombre limité. Mais ce qui me semble important, c'est dans le champ de la pratique de l'architecture, aussi une sorte d'apogée du travail des équipes, des collectifs et des équipes, et la naissance des équipes pluridisciplinaires. Du côté des collectifs, c'est le moment où l'agence de Candilis, Josic et Woods, après avoir lancé le Mirail, se confronte à des projets à l'échelle européenne. Ce projet très intéressant pour le Römerberg à Francfort, projet de concours sans résultat, dans lequel on voit ce tissu de plans superposés et décalés, cette construction à patio envahir le centre encore détruit de Francfort. Projet non réalisé intéressant, projet du même ordre mais autonome, inscrit à l'intérieur d'un rectangle, c'est l'Université libre de Berlin, qui sera réalisé entre 1963 et 1973 avec une contribution très intéressante de Prouvé, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, pour ce qui est des façades, du langage de façade. Intéressant ici est la continuité de ce tissu qui est élaboré en parallèle avec, par exemple, le projet d'hôpital de Venise de Le Corbusier. On pourrait rapprocher aussi ce bâtiment des premiers grands bâtiments de Van Eyck, en particulier de son orphelinat à Amsterdam. En haut à droite, une toute petite maquette assez amusante, qui est une maquette des circulations, en trois dimensions des circulations, faite par Manfred Schildhelm, qui est le partenaire allemand de Candilis, Josic et Woods dans cette affaire. Dans une génération un peu plus jeune à l'époque, apparaissent des démarches nouvelles. Et j'évoquerai le travail de ces deux équipes parallèles et que l'on a souvent rapprochées, que sont l'atelier de Montrouge et l'atelier d'urbanisme et d'architecture. À Montrouge, l'atelier de Montrouge est formé par Rigoulet, Turnauer, qui sont de jeunes architectes qui ont été formés, qui ont été confrontés au travail de Michel Ecochard au Maroc. Véret est issu de l'agence de Le Corbusier où il a travaillé, chez qui il a travaillé sur ses projets indiens. Et Renaudy, si je ne me trompe, vient de l'atelier Lotz. Donc ce sont de jeunes architectes qui sont les héritiers déjà d'une génération de modernes et qui connaissent leurs classiques, puisque cette très jolie bibliothèque de Clamart, dans le quartier de la Plaine de Clamart, dont l'urbaniste est Robert Houzel, qui est un des quartiers les plus réussis construits dans cette période en France, est très proche des projets à matrice circulaire de Wright. J'évoque ici le projet de maison Jester, qui n'a pas été réalisé à l'époque et qui depuis a été réalisé à Scottsdale, Arizona, comme d'autres projets posthumes de Wright. Ce qui est intéressant ici avec ce projet, c'est cette enveloppe, en tout cas ces volumes wrightiens, et à l'intérieur une fluidité qui est moins wrightienne peut-être que proche de celle que met en œuvre Aldo Van Eyck dans son orphelinat, dans son école d'Amsterdam. Dans un autre projet réalisé, l'atelier de Montrouge travaille avec des stéréotypes corbusiens. Cet ensemble du Cap Camara rappelle l'ensemble de Jenan El Hassan de Simoune à Alger, et derrière, évidemment, le projet ROC de Le Corbusier, élaboré au tout début des années 50 à Roquebrune Cap Martin. L'équipe s'intéresse en fait, je dirais, à des systèmes paysagers et urbains dans lesquels une sorte de combinatoire organique, combinatoire est un terme que l'équipe utilise à partir du langage des mathématiques, une combinatoire organique crée des continuités, crée des effets de groupe entre des bâtiments singuliers. Donc avec, chez certains, et notamment chez Renaudy à l'époque, une affection pour les systèmes circulaires, c'est d'autres, chez les autres plutôt, un certain culte de l'orthogonalité. L'autre équipe sur laquelle je vais parler un peu plus longuement, d'autant que sa centralité me semble apparaître de plus en plus fortement dans ces années, par les thèmes, les programmes, les alliances qu'elle noue, c'est l'atelier d'urbanisme et d'architecture, qui s'installe en 67 à Bagnolet dans des bâtiments nouveaux que vous voyez ici, au rez-de-chaussée d'un ensemble de tours d'habitation, mais l'atelier d'urbanisme et d'architecture a été fondé en fait en 1960 par un urbaniste du nom de Jacques Allégret, Et cette équipe d'architectes, de paysagistes et d'ingénieurs est remarquable parce qu'elle tend pour la première fois, dans une équipe d'architectes de cette génération, à prendre des positions culturelles, à prendre des positions critiques. L'agence publie de 1962 à 1966 une revue intitulée Forum, dont le programme est fort simple: offrir un lieu qui permette à différents spécialistes de travailler côte à côte sur les mêmes dossiers, d'apprendre à se connaître et à se comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire très simplement? Ça veut dire que jusque-là, par exemple, les sociologues, je pense à Paul Aurich au Bardelot, étaient dans une position, d'analyse a posteriori, voire d'autopsie des projets réalisés. La problématique de la UA est d'engager des spécialistes des sciences sociales au stade du projet, et c'est une idée totalement neuve en France, et de le faire au contact de maîtres d'ouvrage qui sont attachés à rompre avec les conditionnements généraux. L'engagement politique est une réalité dans toutes ces équipes, c'est le cas pour l'atelier de Montrouge. Pierre Riboulet sera un maoïste assez fervent jusqu'au début des années 70. Une partie des membres de la UA sont communistes et d'autres sont chrétiens de gauche ou membres de ce petit parti plein de dynamisme à l'époque qui s'appelle le Parti Socialiste Unifié, dont sont issus la plupart des membres du cabinet de Malraux et beaucoup de cadres de l'appareil d'État, il ne faut pas l'oublier. Donc, de sa création en 60 à sa dissolution en 86, l'atelier d'urbanisme et d'architecture sera de plus en plus un atelier au sens physique du terme, un contenant, et moins un atelier de travail collectif. Encore que ses membres soient capables de travailler ensemble et parfois engagent même d'autres pratiques, ainsi par exemple une psychanalyse de groupe, qui est quand même, dans les annales de l'histoire de l'architecture du XXe siècle en France, quelque chose d'assez exceptionnel. Donc cette équipe mérite, à mon sens, une attention comparable à celle qu'a reçue, grâce au travail de Catherine Blain, l'atelier de Montrouge, auquel une exposition a été dédiée il y a quelques années. Opérant en binôme, ici, chez Metoff et Deroche, les membres de la UA s'engagent sur des trajectoires parallèles. Alors, on voit par exemple apparaître à Vigneux un projet qui avait été présenté dans le colloque de ce lundi par Vanessa Grossman à Vigneux, une série de positions intéressantes. Certaines relèvent d'un rapport au théâtre de Brecht qui est fondé sur l'idée de distanciation. Le spectateur du théâtre de Brecht ne doit pas se laisser bercer par l'illusion de l'intrigue et de la pièce, mais doit avoir clairement la conscience qu'il assiste à une production culturelle, à une interprétation. Donc, ça veut dire que l'échafaudage, je dirais, pour utiliser une métaphore du monde de la construction, l'échafaudage reste en partie présent et n'est pas démonté complètement. Ce que font chez Metoff et Deroche à Vigneux, dans cet ensemble qui est toujours debout, quoique un peu abîmé par l'isolation à l'extérieur, c'est de montrer les briques creuses sur la tranche, c'est de montrer les assemblages des matériaux, c'est parfois de montrer des joints un peu baveux pour rappeler que ce bâtiment est fait de la main de l'homme. C'est aussi, quand on regarde certains éléments de ce bâtiment, notamment l'utilisation de toitures en pente, qui est assez rare dans l'architecture de cette génération de concepteurs, c'est aussi une architecture qu'on peut rapprocher, bien que les deux protagonistes en question n'y insistent pas trop aujourd'hui, du néoréalisme italien, et notamment du Tiburtino de Ludovico Quaroni, construit à la fin des années 40 à Rome. L'impact ici de ce que publiait Casabella Continuità, les rapports personnels entretenus avec certains Italiens par les membres de l'équipe sont tout à fait importants. Donc je crois qu'il faut savoir lire cet ensemble de sources dans le premier travail de la UA, qui est aussi un travail fort corbusien. Ici, une autre opération réalisée peu après à Pantin, c'est un bâtiment sur pilotis avec des pilotis minces, et dont, avec des loggias et des façades en béton remplies de panneaux de briques, c'est une sorte de rencontre entre les typologies corbusiennes réduites, plus modestes, et puis les textures de la banlieue parisienne. La UA, et c'est un de ses mérites, est au centre d'un rapprochement et d'une conversation, dirais-je, entre architectes, hommes de théâtre, cinéastes, artistes, acteurs culturels locaux, et c'est vrai en particulier en matière de théâtre, avec une série de projets très importants. Je n'en montre que les premiers. L'équipe de Perrottet et de Fabre continuera à réaliser des théâtres très importants, le théâtre de l'Est parisien, le théâtre de la ville, enfin l'aménagement, le réaménagement du théâtre de Chaillot. Ici, les premiers projets, un projet réalisé à Hammamet face à la mer, et en haut à droite, un projet important parce qu'il est le symptôme d'un réseau de relations européens, transmanche, pourrait-on dire. C'est un projet de transformation d'une rotonde à locomotive en théâtre pour Arnold Wesker, excellent dramaturge et auteur britannique, dont les pièces sont à l'époque jouées à Paris, par exemple par Ariane Mnouchkine, autour de 1968. Le travail de la UIA s'étend aussi à d'autres programmes, et j'en évoquerai un ici qui est plutôt exceptionnel dans sa production, c'est l'architecture de la maison individuelle. Et vous voyez comment, à nouveau, ces thèmes de la brique apparente, du claustrat, de l'ossature de métal apparente sont utilisés dans cette habitation sur une pente de Clamart. Le terme de brutalisme, c'est-à-dire d'affirmation explicite des textures sans apprêt, ou avec un apprêt minimum par opposition à une architecture de plaquage ou une architecture d'enduit, ces thèmes sont évidemment très présents ici. Les membres de l'AUA, faudrait-il dire plutôt, s'attachent aussi à des projets de plus grande ampleur. L'un d'entre eux, transformé depuis, est le centre administratif de Pantin, qui est le projet de diplôme de Jacques Calice, qui est un des architectes de l'AUA qui sont les plus tentés par l'École des Beaux-Arts et le désir de remplacer les patrons de l'École des Beaux-Arts, ce qu'il parviendra à faire après 68 dans une large mesure. Le projet de Calice est un projet qui doit pas mal à l'architecture de Louise Kahn, découverte, comme je l'ai dit, diffusée en France notamment par Aujourd'hui, Art et Architecture, projet depuis transformé en centre national de la danse. Enfin, la grande opération que l'AUA conduit dans cette période, c'est celle de la Villeneuve de Grenoble, un projet qui initialement avait été confié à Henri Bernard, l'architecte de la Maison de la Radio, Prix de Rome, etc. Mais, et je reviens à nouveau à ces considérations politiques qui sont une sorte de fil bleu dans mon propos. En 1965, la municipalité de Grenoble change et Hubert Dubedoux prend le pouvoir avec ce qui s'appelle à l'époque les GAM, les groupes d'action municipale, c'est-à-dire des groupes de citoyens sans parti ou mollement inscrits dans les partis de gauche. Et Dubedoux pose la question de la ville nouvelle. Un des adjoints avait lu la revue Forum dont j'ai parlé. Et ce mécanisme de commande grenoblois est assez intéressant. C'est en ayant lu Forum qu'il découvre qu'il y a des architectes qui mènent la critique des grands ensembles et qui, peut-être, vont pouvoir aider cette municipalité de Grenoble à faire autre chose qu'une ZUP habituelle. Le propos qu'avaient tenu dans Forum les membres de la UA à propos des grands ensembles était intéressant, je ne le retrouve plus, mais ils avaient critiqué fortement la politique des grands ensembles en considérant qu'elle apportait une mauvaise réponse plastique à la question du logement. Et elle proposait, avec ces termes, donc dans Forum, l'hypothèse d'un retour d'un retour de la rue qui avait été banni des grands ensembles et qui était banni, par exemple, de l'ensemble du Mirail, de Candilis, Josic et Woods, qui faisait figure du grand ensemble plus avancé. Et donc, ce qui s'exécute à Grenoble, c'est le retour de la rue, mais de la rue sous l'immeuble. Vous voyez donc que ces systèmes anguleux, que ces systèmes linéaires, sont en fait des systèmes dans lesquels les rues sont intégrées. La rue court, la rue qui avait disparu est réintégrée sous l'immeuble et court dessous, distribuant les commerces et les équipements intégrés. Donc l'idéal de ce projet de Grenoble, qui est fondé sur les analyses sociologiques critiquant le zoning et la pauvreté fonctionnelle des extensions urbaines, le propos est un propos de recomposition et d'intégration sur la base de ces données qui ne sont pas que des données de pure forme architecturale. Voilà ce que ça donnera sur le terrain, une photographie assez ancienne qui nous montre l'élément principal du quartier de l'Arlequin et les équipements qui sont greffés dessus. À droite, malheureusement flou, les dessins extrêmement séduisants que réalise Henri Siriani, qui vient de rejoindre, jeune architecte péruvien, qui vient de rejoindre l'équipe de l'atelier d'urbanisme et d'architecture. Ce qui est important aussi, et j'en termine, dans ce projet, c'est la présence du paysage, c'est la présence autour des bâtiments qui donc créent une certaine densité linéaire, si je puis dire, de paysages très ouverts, pour lesquels la UA fait appel à Jacques Simon et surtout à Michel Corajou, qui va rejoindre l'équipe. Quand on lit les revues de cette époque, ou celles des années 70, il y a deux voies dans l'architecture française, à mon sens. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. La première, c'est celle de Paul Chemetov, et donc membre de la UA. La deuxième, c'est celle de Claude Parent. Et Claude Parent, qui avait une pratique, dont on a vu les projets de maison, les projets théoriques comme le Paris parallèle, et qui découvre d'autres horizons lorsqu'il rencontre l'urbaniste Paul Virilio, qu'ils créent ensemble une revue intitulée « Architecture principe » et qu'ils engagent ce projet provocateur de la fonction oblique, récusant toute modification, tout amendement de la logique de la composition horizontale ou de la logique des grands ensembles pour proposer de grandes mégastructures habitables. Donc voici quelques-uns des dessins de Parent sur ce thème extrêmement, extrêmement provocateur. Quand Parent passe à l'acte, eh bien, il n'a pas beaucoup d'occasion de réaliser des plans inclinés. L'un d'entre eux peut être à l'intérieur de l'église Sainte-Bernadette de Nevers, mais pour l'un d'entre eux à l'intérieur de sa propre habitation à Neuilly-sur-Seine. Le plan incliné reste, je dirais, presque un élément d'ameublement, mais pas du tout un élément d'aménagement. En revanche, les projets de Parent ont une force, ici aidés par Virilio, surtout pour ce qui est de la forme générale du bâtiment, les projets de Parent ont une forme et une clarté tout à fait évidentes aujourd'hui. L'église Sainte-Bernadette à Nevers, dérivant de la fascination bien connue de Paul Virilio pour les bunkers de la côte atlantique. À l'époque, elle est simplement exprimée dans le numéro 7 de la revue Architecture Principe. Elle finira par aboutir à l'exposition Bunker Archéologie du Centre Pompidou en 1960. Quelle année, Bunker Archéologie C'était au Centre de création industrielle, pardon, en 1973. Avant Pompidou. Ici, Parent et ses deux partenaires iraniens à la Maison de l'Iran. Parent a beau proposer ses propres réponses au thème des mégastructures, qui est une sorte de... en quelque sorte, en faisant valser l'échiquier, à nouveau, lors du passage à l'acte, sur un terrain difficile. C'est une vision plus traditionnelle de la mégastructure comme grande ossature habitable qu'il propose. Dans ce cycle, de nouvelles hypothèses sont formulées par des architectes qui sont encore à l'école en 1968 et qui, peu avant les grands traumatismes du printemps 68, propose des alternatives de divers ordres. Et de ce point de vue, l'équipe la plus intéressante ne constitue pas à proprement parler un groupe ou une tendance en tant que telle. Elle publie une revue, donc elle se concentre autour d'une revue intitulée Utopie, et elle organise, ou en tout cas une partie d'entre elles organise des événements, comme cette exposition sur les structures gonflables du musée des arts décoratifs en 68, du musée des arts décoratifs, qui est une exposition tout à fait... Non, du musée d'art moderne, pardon, excusez-moi, ma légende est fausse, du musée d'art moderne de la ville de Paris. Ce qui est significatif, c'est que ce soit donc dans un musée d'art animé par Pierre Gaudibert à l'époque, qui s'intéresse à cette architecture éphémère, qui se pratique largement dans le monde anglo-américain et qui débarque en France avec le travail de ces jeunes gens. Donc substituer à l'architecture dure dans laquelle cette génération ne se reconnaît pas, une architecture éphémère, festive, dans le même temps très technologique, inspirée à la fois de Buckminster Fuller et de Fry Otto. C'est un des volets du travail d'Utopie. Et l'autre volet, eh bien, c'est une critique radicale assez et mordante à la fois de la politique officielle. Ici, à gauche, dans les pages de la revue Utopie, un photomontage qui reprend les caricatures de Moisan, que Moisan avait publiées dans le Canard enchaîné contre les projets des Halles. Et à droite, une critique à la fois des métabolistes japonais et d'Archie Graham pour proposer l'hypothèse d'une refondation politique et sociale de la ville. La revue Utopie examine la pratique de l'urbanisme français à partir d'une critique de classe, pourrait-on dire, et à partir des analyses du sociologue Henri Lefebvre, qui publie, ne l'oublions pas, en 1967, « Le droit à la ville », livre dans lequel il affirme, je cite, « la réforme urbaine a une portée révolutionnaire ». Et il plaide pour le droit à la vie urbaine, à la centralité rénovée, au lieu de rencontre et d'échange, au rythme de la vie et emploi du temps permettant l'usage plein et entier de ces moments et lieux. Donc, ici, de la même manière que l'École des Beaux-Arts commence à se réformer avant 68, c'est avant 68 qu'apparaissent aussi des perspectives projectuelles et artistiques différentes. En effet, l'École des Beaux-Arts était déjà en crise dans les années 50. Le Monde avait pu titrer en première page, rare que l'on parle de l'enseignement de l'architecture en première page du Monde, en 59, sur le malaise régnant Quai Malaquais. Il y avait un malaise, le malaise résultant du contraste entre la perception qu'avaient les élèves de la profession, perception qu'ils déduisaient notamment de leur expérience dans les agences où ils travaillaient et les exercices qui leur étaient proposés, notamment pour le prix de Rome. Il y avait, ceci dit, des ferments de renouveau, et j'évoquerai rapidement cela, dans le travail de certains jeunes enseignants, dans les revues publiées par l'école, la revue Melpomen, qui menait l'enquête dans les années 60 sur l'enseignement de l'architecture en Europe et qui est allée s'entretenir avec des protagonistes de la scène italienne, comme Bruno Zevi ou Manfredo Tafuri déjà. Et puis, il y avait par ailleurs des tentatives de renouvellement pédagogique, notamment au sein de l'atelier collégial qui avait été créé par des élèves essentiellement de l'atelier Arech avec Bernard Huette, et qui avait, je dirais, brisé un tabou séculaire à l'École des Beaux-Arts où l'on ne faisait pas de maquette, en introduisant dans son enseignement des techniques didactiques issues de ce que faisait Louis Kahn à Philadelphie. Kahn à qui beaucoup autour de Huette lui-même et beaucoup de ses amis avaient rendu d'assez longues visites. Donc dans cette période, la production intellectuelle sur l'architecture est relativement pauvre. Les traductions des ouvrages anglais, américains ou autres sont extrêmement rares. Font exception, par exemple, la traduction du livre de Bruno Zevi Apprendre à voir l'architecture, ou en 68, celle du premier livre de Gideon, Espace-temps et architecture. Au sein du mouvement qui agite la société française en mai et juin 68, l'École des Beaux-Arts est un foyer incontestablement intense, à la fois et de plusieurs manières, évidemment à cause de la production de l'atelier de l'affiche que vous voyez à gauche, mais aussi parce que l'École des Beaux-Arts devient un peu le lieu de cette purification, de cette catharsis, de cette purification de toutes les passions accumulées. C'est le lieu où les jeunes professionnels et certains moins jeunes rencontrent les étudiants lorsqu'une grève s'étend aussi aux agences d'architecture et parfois de manière cocasse, comme lorsque les patrons de l'AUA ordonnent, ou en tout cas demandent instamment à leurs salariés de se mettre en grève pour être dans le mouvement, ce qui est malgré tout assez amusant. Les assemblées autocritiques et revendicatives abordent les enjeux pédagogiques, mais aussi discutent d'une nouvelle pratique possible de l'architecture passant par la municipalisation du sol, par la création d'ateliers publics, par la réflexion sur un nouveau rapport avec les usagers. Et on peut dire que ce qui émerge dans cette phase, c'est ce que j'appellerais, ou j'ai appelé ailleurs, un certain populisme qui est nourri, qui prend des visages multiples, qui est nourri par beaucoup de sources. Alors, une des sources de ce populisme, c'est la présentation à Paris en 69 de l'exposition de Bernard Rudowski, Architecture sans architecte, qui a un impact considérable. C'est l'information qui circule sur les pratiques alternatives américaines. Et on trouve aussi cette veine populiste dans le travail de quelqu'un qui est par ailleurs un passionné de la technique, comme Yona Friedman, qui imagine que les techniques vont permettre aux habitants de concevoir eux-mêmes avec des claviers spéciaux leur logis, comme dirait Le Corbusier. Donc il y a une agitation très forte autour des modes de vie des usagers. Beaucoup d'architectes vont mener des enquêtes de recherche sur le terrain. Par exemple, Christian de Porzampart travaille avec une équipe de sociologues sur le terrain et je crois que ça l'a beaucoup marqué, à un moment où apparaît aussi la recherche en architecture à l'occasion de la création du CORDA, du Comité pour la recherche et le développement en architecture en 1971, une recherche qui trouve un moment, une sorte de havre monumental à Paris avec l'Institut de l'environnement de la rue Erasme, qui a été créé par le ministère de Malraux pour former les enseignants des nouvelles écoles et qui rapidement, dès lors que les stagiaires, ce n'étaient pas des élèves, mais des stagiaires, se rebellaient chroniquement, a cessé d'être un lieu d'enseignement, mais a accueilli les interactions entre chercheurs en sciences sociales, enseignants des écoles d'architecture pendant 6 ou 7 ans. C'est dans cette phase que sont publiées à la fois des recherches antérieures, comme celle de Boudon sur Pessac, recherche importante parce qu'elle jouait, c'est un travail d'architecte, se posant la question de la réception et de l'usage de cette cité de Le Corbusier. C'est dans cette phase que s'amorcent les programmes de recherche du CORDA qui conduiront à des livres importants comme De Lillo à la barre, publié sous forme de rapport, puis sous forme de livre à la fin des années 70. Les revues changent de nature quand elles n'apparaissent pas avec un agenda, avec un programme nouveau. Architecture, mouvement, continuité remplace le bulletin de la SADG et devient une revue extrêmement important dans son ouverture à l'histoire, dans son ouverture aussi aux scènes étrangères, grâce aux entretiens qui s'y publient avec Manfredo Tafuri, Peter Eisenman et autres. Dans le même temps, lorsque Bernard Huet prend le contrôle entre 1974 et 1977 de la revue L'architecture d'aujourd'hui, c'est à un public plus large que s'adresse un discours plus intellectuel, plus critique, dans lequel une certaine réflexivité se fait jour. Enfin, de nouvelles revues rassemblent auteurs issus des sciences sociales et issus de l'architecture. C'est le cas d'Espace et Société, créé en 69 sous le double parrainage d'Henri Lefebvre, dont la voix est extrêmement présente même quand elle n'est pas reconnue. Lefebvre, à l'époque, a quitté le Parti communiste, il y reviendra plus tard, mais dans les analyses de tous ceux qui se réclament d'un parti qui est encore une force importante intellectuellement et politiquement en France, partout le propos de Lefebvre est présent implicitement. La deuxième figure derrière Espace de société, c'est Anatole Kopp, qui a publié en 1967 un livre sur l'architecture de l'avant-garde russe, qui a joué un rôle important pour beaucoup de gens, pas simplement les historiens ou les passionnés des rapports entre art et politique. On trouve ce livre, par exemple, dans une vitrine à l'entrée de l'exposition Tchoumi à Beaubourg, parmi les livres fétiches que Tchoumi, dans lesquels Tchoumi s'est formé, s'est reconnu. Et c'est parce que Kopp a aussi réactivé à la fois un discours social et politique et un discours esthétique qui est celui que Tchoumi a capté. Donc, Espace et société, revue tout à fait importante, en tout cas dans ses premières années, très diverse et confuse parfois, mais significative. Enfin, les scènes extérieures jouent un rôle nouveau. On a vu comment... Quelle était la distance entre l'Italie et la France dans les années 50 au travers des controverses entre Casabella et l'architecture d'aujourd'hui. La popularité en France d'Aldo Rossi, invité à construire à plusieurs reprises tout petit peu plus tard, celle de Tafuri, dont les ouvrages déjà obscurs en italien sont traduits de manière parfaitement illisible en français. Reflète quoi au fond un désir des architectes déjà enseignants autour de 68 comme Bernard Huet et de leurs élèves de s'identifier, on en a parlé lundi, non plus à l'artiste, non plus à l'ingénieur, mais à l'intellectuel. La largeur du fossé entre architecte et intellectuel en France était mesurable lors de la polémique entre Casabella et l'architecture d'aujourd'hui, on mesure ici la force de ce nouveau désir dans cette phase. C'est alors dans les villes nouvelles que se déplacent l'innovation et l'invention, ces villes nouvelles créées dans la région parisienne à la suite du schéma d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, du schéma directeur de 1965 qui programmait, comme vous le savez, la création de villes nouvelles sur deux axes tangentiels à la vallée de la Seine. C'est au travers de concours à relativement grand spectacle et de réflexions assez ouvertes que s'élaborent ces villes nouvelles. Ici, deux des terrains où les idées les plus avancées, les plus aussi parfois les plus inquiétantes sont formulées. Le Vaudreuil, dans la vallée de la Seine, où l'atelier de Montrouge travaille. C'est d'ailleurs à ce propos que l'on voit Renaudy rompre avec ses camarades. Voici le projet de germe de ville du Vaudreuil. Rappelez-vous de la maquette des circulations de l'Université libre de Berlin. C'était une maquette de circulation. Ici, cette maquette, c'est une maquette du même ordre, mais qui est la maquette des bâtiments eux-mêmes. Donc, il y a, malgré tout, une très grande raideur, même si le plan est complexe par ailleurs, dans cette idée d'une ville qui serait faite d'un entrelacs de trames. C'est le projet des membres principaux de l'atelier Montrouge, enfin de Riboulet, Turnemer et Verret. Renaudy a un projet très différent, beaucoup plus paysager, pourrait-on dire, dans lequel on trouve des traces Wrightiennes, les traces du projet de Wright pour Madison, Wisconsin, qui a été en partie réalisé récemment. Autre projet qui aura un impact plus grand puisqu'il sera exposé au Grand Palais après le concours pour le quartier d'Evrien, c'est le projet de l'atelier d'urbanisme et d'architecture qui s'associe à Ricardo Bofill pour proposer une gigantesque structure habitable dans laquelle on aurait circulé avec un petit transport en site propre et qui aurait donc concentré toute la matière urbaine dans une grande entité laissant, l'idée est proche de celle de Grenoble, laissant les espaces autour transformés en parc ou en jardin. Donc l'idée d'un refus de l'extension sur le terrain de la ville nouvelle et l'idée que la densité et le mélange des fonctions sont positifs. En réalité, c'est ce projet d'Andro et Para qui sera lauréat et qui est un projet emblématique de ce que l'on pourra appeler l'architecture proliférante. C'est dans les villes nouvelles aussi, environ 5 ans plus tard, entre 3 et 5 ans plus tard, que s'amorce une autre réflexion, le concours du Val-Maubuée à Marne-la-Vallée, où s'affronte l'équipe de l'AUA, de l'AREA, pardon, conduite notamment par Alain Sarfati, que vous voyez à gauche, dans une posture didactique assez intéressante, et le projet de Chemetov, Yves Lyon, Jean-Paul Rayon et autres, qui s'intéressent aux traces paysagères et à la composition d'ensemble, en abandonnant l'idée des trames abstraites de Grenoble. Et en bas à gauche, les projets de maisons de ville et d'immeubles de ville avec lesquels une urbanité plus traditionnelle est redécouverte dans les villes nouvelles à la fin des années 70. Dans une situation qui est marquée par les débuts d'une politique d'État en matière d'innovation architecturale et le début d'un rejet massif par le même État de la politique des grands ensembles. C'est en effet au début des années 70 que l'État met sur pied une série de programmes, le plan construction notamment, qui est un programme de recherche publique très précisément, je cite l'énoncé, de stimulation de la recherche et de l'expérimentation dans la construction et précisément dans l'habitat, créé en 1971 par Chaban-Delmas, sous la présidence de Delouvrier, qui avait présidé au schéma d'aménagement de la région parisienne. Création par la suite, ou très rapidement, en 71 aussi, d'un programme architecture nouvelle pour mettre les jeunes architectes à l'épreuve des nouvelles réalités professionnelles. L'élection, les deux épisodes, ou plutôt deux types de déclarations publiques vont être importantes pour amorcer le tournant dans la politique. J'y reviendrai après. C'est les déclarations de Guichard et sa circulaire de 1973 qui va mettre un terme à la politique des grands ensembles telle qu'elle s'était développée depuis pratiquement une vingtaine d'années. Cette circulaire aura pour effet, par exemple, d'empêcher la réalisation des grandes zones à urbaniser en priorité que Niemeyer avait imaginées à Dieppe, à Grasse et aussi aux Hautes-Bruyères, à Villejuif. Guichard met en évidence et soutient les entreprises menées dans le cadre de l'innovation architecturale. Ici, deux exemples totalement extrêmes. Le système Multiplus de Paul Chemetov associé à Bouygues, qui est un système de préfabrication ouverte avec des dimensionnements extrêmement rigoureux, qui est en fait une sorte de détournement de l'industrialisation. Et puis les projets Zazou, comme celui de Kalougine, lauréat au premier plan, premier programme architecture nouvelle d'une architecture végétalisée, une idée qui sera reprise bien plus tard pour d'autres raisons bien sûr. 1977, une loi sur l'architecture extrêmement importante, dans laquelle se mettent en œuvre des hypothèses qui sont celles que Giscard d'Estaing a formulées dans un entretien très célèbre donné au Point en 1975. C'est une des rares déclarations directes d'un chef d'État sur l'architecture, dont le discours mérite d'être rappelé. Je cite Giscard, « Je souhaite que les jeunes architectes gardent cet art de concilier la conception d'ensemble, la bonne utilisation des matériaux et le soin du détail. Je souhaite également qu'on ne fasse plus l'architecture à la place des gens sans qu'ils aient le temps ou la possibilité de la comprendre et de se l'approprier. » C'est une sorte d'injonction paradoxale. Giscard demande aux habitants d'être spontanés. Leur demande de prendre le pouvoir contre quoi ? Contre la politique de l'État. Alors, cette politique, elle va se traduire de différentes manières. Pendant que les actions dans les banlieues où agissent les équipes pluridisciplinaires dont j'ai déjà parlé commencent à changer. Ici, Renaudy dont on a vu les géométries circulaires au Vaudreuil, engage toute une série d'opérations à Ivry, sous les tours de la première partie de l'opération coordonnée par René Gay-Houstet. Il continue sa politique à Givors, comme vous le voyez à droite, un peu plus tard. C'est un type d'invention architecturale qui bouleverse les catégories antérieures et qui tente d'instituer une sorte de continuité entre le bâtiment et la ville. Dans la génération qui suit celle des 68 arts, ces projets proliférants ne suscitent autant de dégoût que, en dépit de l'estime que certains d'entre eux peuvent avoir pour des gens engagés comme Renaud dit, ces projets suscitent autant de dégoût que les grands ensembles, et c'est par exemple dans le cas de Ports en Part vers une architecture plus poétique, réhabilitant des formes urbaines comme celle de la place ou du square qui est préconisée. C'est en quelque sorte le tournant postmoderne qui s'annonce déjà, alors sans doute que le bâtiment transcrivant le plus radicalement les idéaux initiaux du mouvement moderne est construit à Paris. Je pense au Centre Pompidou, mis au concours en 71, et qu'il est extrêmement tentant de rapprocher, notamment dans sa première version, dans la version du concours, qui était à mon avis meilleure que celle qui a été réalisée, il est tentant de rapprocher ces circulations sur la surface du manifeste du futurisme de Saint-Élia, qui rêvait en 1914, je vous le rappelle, de maisons futuristes à l'image d'une gigantesque machine. Saint-Élia annonçait la disparition des escaliers devenus inutiles, écrivait-il, pour peu que les ascenseurs grimpent comme des serpents de fer et de verre le long des façades. Donc, si vous voulez, dans ce cycle, ce qui est extrêmement intéressant, c'est le double dépassement de ce moderne français étatisé, critiqué et transformé dans le travail des ateliers pluridisciplinaires. Double dépassement, d'une part, par un retour aux sources futuristes et par un glissement vers des stratégies plus de resymbolisation, comme dans le cas de Ports en Part. Une source importante aussi pour le Centre Pompidou, je l'évoque parce qu'on l'oublie en général, on l'assimile au Fun Palace de Cedric Price, c'est la Maison de la Culture de Stockholm, bâtiment multidisciplinaire, multi-usage, implanté sur une place décavée, une place creusée dans le sol, qui communique avec le métro, et dans lequel, évidemment, il n'y a pas d'escalier à la Saint-Élia, mais cette idée du grand bâtiment frontal dans lequel les fonctions sont combinées était en train de se réaliser à Stockholm lorsque Piano et Rogers font leur projet. Dans cette phase, il y a une sorte de néo-futurisme français qui se formule dans les projets d'infrastructure, à nouveau encadré par l'État ou ses appareils. C'est l'achèvement de l'aérogare 1 de Charles de Gaulle par Paul Andreu. C'est le programme des centrales nucléaires qu'on assimile en général à Parent, mais qui en fait est mise en œuvre par un collège de 9 architectes qui compte notamment Andreu, Dufaux, Dubuisson, Taillibert, Villeurval et Parent, qui est celui qui se taille la part du lion dans les commandes. Dans cette phase, de première réalisation marque véritablement l'entrée dans la commande des architectes qui avaient secoué l'École des Beaux-Arts en 68. C'est le cas de Christian de Ports en Part avec cet ensemble de la rue des Hautes Formes, qui est un ensemble dans lequel déjà le principe ports-en-parquien de l'unité dans la fragmentation ou de la fragmentation de l'unité apparaît. Elle le conduira plus tard à réfléchir sur l'îlot ouvert. Ici, cette opération de logement est découpée en immeubles qui entretiennent entre eux des rapports intéressants autour d'une petite place qui reproduit la place de Fürstenberg à Paris. C'est à ce moment aussi qu'apparaît que l'enseignement de Bernard Huet et de toute cette frange historiciste de l'enseignement de la culture architecturale française se condense. Il se condense notamment pour ce qui est de Huette dans ce collage à gauche, dans lequel vous voyez les projets de l'équipe TAU, Théorie de l'architecture et de l'urbanisme de Huette. TAU peut être un écho à AUA ou à d'autres sigles, je n'en sais rien. En tout cas, vous voyez ce collage de Huette où ces bâtiments sont assemblés avec une série de figures découpées dans les recueils, figures modernes, Asplund, mais aussi figures antiques, et qui fait évidemment un écho au collage d'Aldo Rossi réalisé par Fabio Reinhardt et Bruno Reichlin, si je ne me trompe. Bruno Reichlin qui est ici, donc on peut le confirmer. Donc c'est dans ces tensions entre le néo-futurisme des infrastructures, cette démarche poétique, mais malgré tout engagée dans le concret, certaines rêveries et nostalgies de l'urbanité et de l'histoire, que ce clown conjoncture qui va être relancé en 81 par l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République et par de nouvelles politiques publiques, celles des grands travaux, et malheureusement aussi celles dont on paye aujourd'hui, dont la France paye aujourd'hui les effets politiques, la politique de la maison individuelle qui détruira une bonne part des efforts qui ont été faits pour transformer et humaniser l'habitation collective dans les années que je viens d'évoquer. Merci.